Bonjour à tous, cheveux blonds ou cheveux gris. Ici Chantal Doré au micro d'Au fil du temps, l'émission qui relie les générations et nous accompagne dans l'art de vieillir avec sérénité. Nous voici au tout début d'avril en cette 41e émission d'Au fil du temps. Avril, c'est le printemps qui renaît, quelques plantes qui déjà sortent de terre. On voit, selon la région à laquelle vous appartenez, certaines salles de spectacle qui ouvrent et qui referment, des cinémas qui ouvrent et qui referment. Donc, disons que nos loisirs ont un petit peu raccourci comme peau de chagrin là, durant la dernière année. Or, les loisirs, c'est ce qui nous rend vivants, c'est ce qui nous permet de donner toute la saveur à la vie. Et nos deux Louise sont de retour avec leur version moderne du radio-roman d'origine. Cette semaine, elles nous parlent des loisirs avec un thème qui est « Comment changer d'air tout en restant dans son salon ». Elles nous parleront entre autres de réalité virtuelle, des loisirs qu'on peut faire avec son ordinateur et des liseuses. En deuxième partie d'Au fil du temps, un sujet peut-être moins, je dirais, orienté autour des loisirs, mais tellement, tellement fondamental, qui est celui d'une fois qu'on a bien vécu, qui est de bien mourir. On va parler de mourir dans la dignité, de l'aide médicale à mourir avec un grand spécialiste du sujet. Georges L'Espérance est neurochirurgien et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Si vous êtes un fidèle d'Au fil du temps, vous savez que je vous ai parlé déjà de ce sujet-là parce qu'il y a déjà 3 mois, mon oncle Marc nous a quittés en demandant l'aide médicale à mourir et nous sommes heureux qu'il ait pu quitter dans la dignité au moment où il ressentait le besoin de partir calmement. Donc, avant de se lancer dans cette entrevue avec M. L'Espérance, vous avez tout un nom pour parler de ce sujet-là.
C'est pas de ma faute.
Je vous offre d'écouter une pièce de Barbara, une très belle pièce qui s'appelle « Mourir pour mourir ».
À mourir pour mourir, je choisis l'âge tendre. Et partir pour partir, je ne veux pas attendre. Je ne veux pas attendre. J'aime mieux m'en aller du temps que je suis belle. Qu'on ne me voit jamais faner sous ma dentelle. Faner sous ma dentelle. Et ne venez pas me dire qu'il est trop tôt pour mourir. Avec vos aubes plus claires, vous pouvez vous faire l'enlair. J'ai vu l'or et la pluie sur les forêts d'automne, les jardins alanguis, la vague qui se cogne, la vague qui se cogne. Et je sais sur mon cou la main nue qui se pose. Et j'ai su à genoux la beauté d'une rose. La beauté d'une rose. Et tant mieux s'il y en a qui les yeux pleins de lumière ont préféré les combats pour aller se faire l'enlair. Au jardin du bon Dieu, ça n'a plus d'importance. S'y couche amoureux ou tomber pour la France, ou tomber pour la France. Il est d'autres combats que la fin des mitrailles. On ne se blesse pas qu'à vos champs de bataille, qu'à vos champs de bataille. Et ne comptez pas sur moi s'il faut soulager mes frères. Pour mes frères, ça ira. J'ai fait ce que j'ai pu faire. Si c'est peu, si c'est rien, qu'il décide d'eux-mêmes. Je n'espère plus rien, mais je m'en vais sereine. Mais je m'en vais sereine. Sur un long voilier noir, la mort pour équipage. Demain, c'est l'au revoir. Je quitte vos rivages. Je quitte. Car mourir pour mourir, je ne veux pas attendre et partir pour partir. choisis l'ange tendreux.
Mourir pour mourir par Barbara. Et quand on écoute la pièce musicale, elle dit « je choisis l'âge tendre », mais on aurait envie de dire « je choisis le moment tendre où je peux être avec les gens qui me sont chers au cœur ». Et on reçoit pour parler d'aide médicale à mourir et du droit à mourir dans la dignité, Georges L'Espérance, qui est neurochirurgien de profession et président de l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité. Bonjour.
Bonjour, Mme Doré. Merci beaucoup de l'invitation.
Merci de nous éclairer sur un sujet qui a connu beaucoup de développement récemment là, au niveau légal. Mais avant d'entrer là, vraiment dans l'aspect légal de la chose, on parlait, vous et moi, pendant cette superbe pièce musicale. Je vous parlais de mon oncle et vous me disiez qu'effectivement, c'est quasiment une chance qu'il a eu, là, en fait, un bon moment qu'il a eu de pouvoir choisir le moment de sa mort.
Tout à fait. Il faut que les gens qui nous écoutent, c'est pas, il y en a peut-être qui ont déjà vu de leurs proches mourir dans des souffrances qui n'en finissent plus, une agonie qui est longue, la recherche de la respiration pendant des heures et des heures et des jours, et ce, en dépit des meilleurs soins palliatifs qui peuvent exister. Alors, il n'y a rien de drôle dans un décès qui s'étire. Et de nos jours, comme la médecine fait beaucoup de choses, ben souvent les patients vont jusqu'à leur dernière limite. Alors l'aide médicale à mourir permet ainsi à un patient de décider de l'heure, décider du jour et de l'heure où il va partir avec toute sa conscience, avec toute son aptitude et surtout avec toute sa dignité, avec les gens qu'il aime autour de lui. Et tous pourront lui dire bonjour, alors que je suis certain que de nombreux de vos auditeurs ont déjà attendu quelqu'un qui allait mourir, donc ils vont prendre un café pendant qu'ils sont à l'hôpital, le patient meurt pendant ce temps-là. Alors, évidemment, la mort, c'est jamais quelque chose d'agréable, mais ça fait partie de la vie, qu'on le veuille ou non. C'est inéluctable. Alors, pourquoi ne pas la rendre de façon... pourquoi ne pas la rendre pas agréable, mais en tout cas au moins avec un certain confort et surtout de la dignité.
La dignité. Vous me disiez justement pendant la pièce musicale que vous avez vécu récemment une expérience où la famille entourait quelqu'un qui est parti comme ça.
Oui, une famille extraordinaire avec leur grand-maman et les enfants étaient là avec les petits-enfants. Il y en a plusieurs qui étaient musiciens, donc ils avaient pratiqué quelques belles chansons. Ils ont chanté autour de leur grand-maman pendant que l'injection se faisait. Écoutez, elle est morte avec le sourire aux lèvres, si je puis dire, et en écoutant sa famille chanter autour d'elle. Et c'est l'expérience que tous mes collègues qui font de l'aide médicale à mourir ont, même si les gens ne chantent pas tous, ils sont autour de leurs proches et peuvent témoigner leur amour jusqu'à la dernière seconde. Bien sûr, c'est toujours émouvant, mais au moins, il n'y a pas cet aspect d'une mort indigne, finalement.
Inhumaine,
très souvent, avec la recherche de la respiration, alors que là, c'est une mort qui se fait en quelques secondes, si on peut dire, et dans toute la dignité. La personne dit bonjour à tout son monde, à tous ses proches, puis elle part tout doucement. Et moi, je leur dis toujours à ces gens-là, en faisant l'injection et en leur tenant la main, ben, je vous souhaite un très bon voyage. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens autour qui disent ça aussi, des familles. Un bon voyage, grand-maman, ou bon voyage, ma tante Lucille, et puis voilà.
Pourquoi c'est aussi tabou, ce sujet-là? Est-ce que c'est parce qu'on, justement, on est rendu dissocié? Peut-être parce que, justement, on n'a pas vu avant, on veillait justement les morts au salon,
d'où les salons. J'aime bien votre terme de dissocié. Oui, c'est un petit peu ça, parce que depuis la nuit des temps, la mortalité existe, bien sûr, mais la mort faisait partie de la vie dans toutes les tribus, dans toutes les peuplades, jusqu'à plus loin, ou jusqu'aux chasseurs-cueilleurs. Il y a des preuves que les gens avaient des funérailles, ou en fait, tout au moins, avaient des espèces de protocoles. Et c'est comme ça jusqu'à peu près au milieu du 20e siècle où les gens, la mort faisait partie de la vie. Bien sûr, si vous perdiez un enfant, il n'y avait rien de drôle dans ça, là. Mais voir partir ses grands-parents ou ses parents, c'est quelque chose de tout à fait normal. Et depuis les années 60 à peu près, en Amérique du Nord, puis en Europe aussi, moins en Europe quand même, mais en Amérique du Nord, la médicalisation a pris une telle place qu'on cache la mort. Il n'y a plus personne qui meurt à la maison, sauf accident brutal, là. Mais les gens meurent tous à l'hôpital dans des conditions... avec les fluorescents qui sont allumés. Bien sûr, il y a des soins palliatifs, mais là aussi, les soins palliatifs, et c'est très bien, mais les soins palliatifs n'ont pas réponse à tout. Ils n'ont pas réponse, entre autres, à la perte de dignité que certains patients ressentent à se sentir diminuer de jour en jour. Mais nous sommes tout à fait d'accord avec les soins palliatifs, il ne faut pas se tromper. Mm-hmm. Par contre, il y a des patients qui ont eu des soins palliatifs de grande qualité et qui, à un moment donné, demandent l'aide médicale à mourir parce qu'ils n'en peuvent plus.
Oui, tout simplement.
Et
avant vraiment qu'on aille vraiment dans le fameux projet de loi, je suis quand même curieuse de votre parcours. Donc, on l'a mentionné en entrée, vous êtes neurochirurgien. Ouais. Et qu'est-ce qui vous a amené là, à vous intéresser à l'aide médicale à mourir?
Bon, je suis neurochirurgien de formation, mais comme tout neurochirurgien, on fait face à des pathologies qui sont souvent gravissimes, que ce soit en traumatologie ou en cancérologie avec les tumeurs, les malformations antéro-veineuses, etc. Par contre, depuis toujours, avec mon épouse aussi, nous nous sommes toujours intéressés à l'éthique et à la finalisation de la médecine, la surmédicalisation, les surtraitements. Et j'ai toujours trouvé difficile cette marche de la médecine qui refuse la mort.
Ouais.
Et comme on avait l'habitude de dire, on traite les patients jusqu'à ce que mort s'en suive. Alors, il y a quelque chose dans
l'acharnement
beaucoup dans les années 70, 80, 90. Heureusement, maintenant, ça change un peu. Les médecins sont plus raisonnables et responsables. Mm-hmm. Mais il reste que c'était quand même difficile. Et la mort fait partie de la vie. Et tout bon médecin devrait apprendre un peu au début de sa première année que la mort, c'est pas un échec pour personne. Mm-hmm. La mort, c'est inéluctable.
Comme les impôts, hein?
Je dis toujours, en boutade, qu'il y a trois choses de certaines dans la vie, la naissance, la mort, puis les impôts pour la plupart d'entre nous.
Il y a une histoire récemment qui a été dans l'actualité, entre autres, tout le monde en parle là, pour reprendre la grande messe dominicale, l'histoire de Sandra de Montigny, atteinte d'Alzheimer précoce et qui milite justement pour l'aide médicale à mourir. Et j'aimerais ça que vous puissiez un peu nous éclairer sa situation et comment justement l'évolution de la loi en ce moment, toutes les discussions autour de la loi C7, je crois, sont en jeu dans un cas comme le sien.
Bien, en ce qui concerne Sandra de Montigny, c'est un Alzheimer précoce, donc c'est très rare, c'est génétique, c'est malheureux. Mais il reste que la politique, enfin tout le reste s'applique à sa situation. L'Alzheimer habituel, ce qu'on appelle les maladies neurodégénératives cognitives, sont fréquentes à partir de 60-65 ans et de plus en plus fréquentes avec le vieillissement. Donc, la même mécanique, si vous voulez, s'applique. Ce que Sandra de Montigny demande, avec raison, et nous sommes tout à fait d'accord avec ça, c'est lorsque vous avez un diagnostic ou vous êtes fait donner un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive, l'Alzheimer étant la plus fréquente, eh bien, vous avez le droit à ce moment-là de dire, bon, écoutez, moi, par mes directives médicales anticipées, je veux avoir l'aide médicale à mourir à tel moment dans mon évolution. Et c'est là où il y a une problématique. Mm-hmm. Pour le moment, avec la loi fédérale, et C7 est venu justement clarifier ça, avec la loi fédérale, on peut donner l'aide médicale à mourir à un patient qui a une maladie neurodégénérative cognitive, un Alzheimer, mais qui a encore son aptitude à décider pour lui.
Mm-hmm.
Mais ceci dit, il faut que le patient soit bien conscient qu'en prenant l'aide médicale à mourir à un moment X lorsqu'il est apte, il perd 6 mois, un an et demi d'une vie qui pourrait être agréable. Mais les gens ne veulent pas se rendre là parce qu'ils vont perdre leur aptitude à décider pour eux-mêmes. Et Mme de Montigny, ce qu'elle demande, c'est que moi, si j'ai l'aide, elle qui parle.
Oui.
Si je veux l'aide médicale à mourir pendant que je suis apte à prendre mes décisions, je perds un an et demi, avec mes enfants, avec mon mari, avec ma famille. Si j'attends trop, parce que je veux gagner ces mois-là et ces années-là, je vais perdre mon aptitude. Et à partir du moment où vous perdez votre aptitude, vous ne pouvez plus demander l'aide médicale à mourir. C'est un sine qua non de demander l'aide médicale, d'avoir l'aptitude pour demander l'aide médicale à mourir. C'est là qu'est tout le débat. Donc, pour l'instant, pour mettre ça clair, les patients qui ont un diagnostic de maladie neurodégénérative cognitive peuvent demander l'aide médicale à mourir tant qu'ils sont aptes, parce qu'on sait que c'est une maladie mortelle et inéluctable, mais par la suite, s'ils deviennent inaptes, pour l'instant, on ne peut pas. Et c'est là-dessus qu'on va travailler, tout le monde, le fédéral comme le provincial et nous, pour avoir ce qu'on appelle les directives médicales anticipées.
D'accord. Parce que moi, j'ai écouté une entrevue avec elle où elle disait qu'elle voudrait partir au stade 6.
Oui.
Donc, elle a déjà identifié le stade où elle voudrait.
Sauf qu'au stade 6, elle n'aura peut-être plus son aptitude à décider pour elle-même et là, elle ne pourra plus l'avoir. Alors que si elle peut avoir ses
Anticipé.
directives médicales anticipées, quand je serai rendu au stade 6, je veux l'aide médicale à moi. Parfait, tout le monde sait où est-ce qu'elle en est. Et elle aura profité de ces quelques mois de plus avec sa famille, avec ses proches.
Ben, ça fait, me semble, plein de sens. Ça me fait plein de sens tout ça. Et vous dites passer du temps avec ses proches. On va faire une petite pause musicale avec une chanson de circonstance et Mourir auprès de mon amour de Demis Roussos.
S'il faut je veux que tu sois là, car c'est ton amour qui m'aide. Souvenir.
c'était « Mourir auprès de mon amour » de Miss Roussos. C'est une très belle chanson, très touchante. On est de retour avec le docteur L'Espérance, oui. Donc, de l'Association québécoise pour le droit à mourir dans la dignité. Et essentiellement, qu'est-ce que l'association revendique et espère?
En fait, ce que nous revendiquons dans le moment avec la loi C7 qui est passée, c'est essentiellement l'ouverture de l'aide médicale à mourir pour les problèmes qui restent, pour les pathologies qui restent en suspens, à savoir l'aide médicale à mourir chez les mineurs matures. Les mineurs matures, on s'entend généralement, c'est de 14 à 18 ans, ça peut être 12 à 18 ans, ce qui est très, très rare, mais quand ils ont des pathologies, ces enfants-là, c'est des pathologies gravissimes et c'est toujours d'une tristesse infinie. Deuxièmement, pour les directives médicales anticipées chez les patients avec des maladies neurodégénératives cognitives, on en a glissé un mot tout à l'heure. Et le troisième point, c'est évidemment l'aide médicale à mourir chez les patients avec santé mentale, avec des problématiques de santé mentale.
Et donc là, elles sont exclues, là, les gens qui ont des...
Oui, pour l'instant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans la loi C-14, qui nous gérait jusqu'à maintenant au fédéral, dans le code criminel, la santé mentale n'était pas exclue. Sauf qu'il y avait le critère que la mort naturelle devait être raisonnablement prévisible. Et au Québec, c'était la fin de vie. Donc, ça excluait d'emblée les problèmes de santé mentale. Ouais. Et c'est pour ça que le fédéral, avec l'obligation qu'il avait d'enlever le critère de mort naturelle raisonnablement prévisible suite à la décision de la juge Beaudoin dans la cause de la Dutruchon. Donc, le fédéral a enlevé ce critère-là. Ce n'est plus un critère d'admissibilité, mais ça devient un critère de sauvegarde, qu'ils appellent selon le terme qu'ils emploient. Mais à ce moment-là, si la mort naturelle n'est plus raisonnablement prévisible, bien, les patients avec des problématiques de santé mentale exclusives devenaient admissibles. Et là, ça pose toute une autre série de problèmes, en particulier les balises que l'on doit mettre sur les problématiques de santé mentale. Parce que c'est pas du tout comme un cancer ou comme une autre pathologie dégénérative, comme une sclérose en plaques. Les problématiques de santé mentale, pour plusieurs, elles sont fluctuantes dans le temps. Elles sont fluctuantes aussi avec l'âge du patient et souvent on les voit plus ou moins s'amenuiser avec l'âge. Et elles n'ont pas toujours la même intensité. Et les psychiatres et d'autres vont dire, et avec raison, qu'un des problèmes qui va avec la santé mentale, c'est justement ce désir de mourir. Et donc, qu'est-ce qui fait partie de la maladie et qu'est-ce qui devient vraiment... Donc, ça pose des gros problèmes. Plusieurs psychiatres se sont penchés là-dessus. L'Association des psychiatres canadiens a fait un rapport. L'Association de psychiatrie du Québec, l'Association des psychiatres du Québec, a fait un magnifique rapport qui est paru, si mes souvenirs sont bons, quelque part en octobre ou novembre 2020. Et donc, là, on part avec des discussions. Ce que ça pose comme problématique, la santé mentale, il y en a plusieurs. Est-ce que c'est tous les diagnostics qui devraient être acceptés? Est-ce qu'on demande à un patient un certain délai? Est-ce qu'il doit avoir souffert de sa maladie pendant 10 ans, 15 ans, 20 ans? Est-ce qu'il y a un délai qu'on doit mettre là-dessus?
Est-ce quelqu'un qui vit une dépression suite à certains chocs difficiles de la vie qui va finir par s'en remettre?
Absolument. Les problèmes de dépression situationnelle. Vous avez perdu votre conjoint, c'est sûr que vous n'avez pas envie d'aller chanter puis danser, puis vous ne vous sentez pas bien, là. Mais la nature humaine étant faite que, bon, normalement, ça passe. Mais on peut prendre deux exemples tout à fait extrêmes. Je le dis souvent en conférence, les gens âgés rient tout le temps. Si un jeune de 22 ans vient me voir et qu'il veut absolument l'aide médicale à mourir parce que sa blonde vient de le laisser ou vice-versa, on s'entend que c'est pas inéluctable puis c'est pas grave. Dans 3 mois, ça va être réglé. Alors, bon. Par contre, un patient qui a une problématique de santé mentale grave, des dépressions à répétition, qui durent chaque fois 2-3 ans, il perd ses emplois et la vie est en noir. Et il est rendu à 50, 55, 60 ans, il a eu 3, 4, 5 épisodes de dépression majeure. Là, on est dans un tout autre domaine, dans un tout autre registre. Et si ce patient-là demande, après de multiples consultations, avec toute l'aide qu'il a pu avoir, demande encore l'aide médicale à mourir, en vertu de quoi on lui refuserait? Est-ce que c'est parce qu'il y a une souffrance qui n'est pas
une forme de suicide assisté?
Oui, on pourrait dire ça aussi, mais encore là, pourquoi est-ce que ce patient-là, qui a une souffrance très intense, qu'on ne peut pas évaluer parce qu'elle est psychologique, mais en vertu de quoi on déciderait, nous, comme traitants ou comme société, de dire « Non, regarde, là, écoute, c'est un suicide que tu veux, là, toi, là, c'est pas... » Pourquoi est-ce que celui qui a un cancer, lui, c'est pas un suicide, puis celui qui a une dépression profonde, ça le serait pas? Donc, il y a plusieurs questions comme ça. Une autre question qui, moi, me tient beaucoup à cœur, qui est très, vraiment éthique dans la problématique de santé mentale, c'est jusqu'où doit-on aller pour exiger que le patient ait tous les traitements disponibles? En vertu des chartes, si vous avez n'importe quelle pathologie, et puis qu'on vous dit, ben voici vos chances avec tel tel traitement, vous dites, non, moi, c'est terminé, je n'en veux plus, point final, par exemple, chimiothérapie. Mais est-ce qu'en santé mentale, on devrait avoir la même attitude, ou si on ne devrait pas être, peut-être, je pose la question, j'ai absolument pas la réponse, mais est-ce qu'on ne devrait pas avoir un petit peu plus d'obligation de traitement? Moi, je pose la question. J'ai pas, comme je vous dis, je n'ai pas la réponse, mais je pense qu'il faut fouiller ça un peu.
Absolument.
Et il y a plusieurs problématiques comme ça qui se posent avec la santé mentale. Ceci dit, le point le majeur, c'est qu'un patient qui a une problématique de santé mentale a tout à fait droit à son autonomie comme tout autre citoyen. Et on ne peut absolument pas nier sa souffrance qui est vraiment réelle. Et non seulement elle est réelle, mais elle est peut-être même plus profonde qu'un patient qui a une pathologie XYZ, parce que la pathologie cancéreuse, sclérose, on peut l'évaluer, on peut savoir, on peut examiner le patient. Mais la pathologie de santé mentale, les psychiatres, avec beaucoup, beaucoup d'attention, beaucoup d'écoute, peuvent trouver une piste, un chemin pour évaluer la douleur du patient, mais ce n'est pas évaluable comme un fémur cassé. Je veux dire, ça pose beaucoup de problèmes. Mais on ne peut certainement pas mettre ces patients-là de côté.
Une dernière petite question. J'ai envie de vous demander, avec tout ce qui s'est passé dans les CHSLD, croyez-vous que les gens qui vieillissent vont se dire, moi, j'ai pas envie de vivre ça et je vais vouloir recourir à cette loi-là?
En fait, si vous perdez toutes vos capacités puis qu'actuellement, on vous dit, bon, ben regarde, la seule route que tu as, c'est d'aller dans un CHSLD. Il y a probablement des gens qui vont le demander.
Ouais.
Maintenant, l'être humain veut vivre.
Hein? Ouais.
Dans l'aide médicale à mourir, actuellement, nos chiffres là, au Québec, avant C7, c'est 2,6% de la population qui mourait avec l'aide médicale à mourir. Et là-dessus, on est en deçà des patients des pays qui ont l'aide médicale à mourir.
Docteur L'Espérance, un grand merci et on espère bien faire connaître votre cause qui est si importante.
Merci infiniment de l'invitation, c'est gentil.
Merci.
Au plaisir.
Au plaisir, au revoir.
Vous écoutez Au fil du temps avec Chantal Doré.
Dans la vie, il y a la mort et dans la mort, il y a plein de vies. On a parlé de l'aide médicale à mourir et maintenant, nous allons parler de quoi faire pendant ce temps où nous vivons et pour savourer chacune de ces secondes. Et les loisirs en font partie, ça nous rend encore plus vivants. Donc, tout de suite, après la pièce musicale, nous allons rejoindre les deux Louise qui vont nous parler de comment changer d'air dans notre salon. Alors, l'un de mes loisirs qui revient tranquillement parmi nous, le cinéma. Je vous offre la pièce « Je vais au cinéma » d'Arnaud Florent Didier.
Je vais au cinéma, je vais voir n'importe quoi. Je suis bien tombé, vraiment.
Mais je sais pas ce qui m'a pris. J'ai marché.
Oh, j'ai marché.
J'ai pris la rue des
Dames.
J'ai pris la rue des Batignolles. J'ai pris le boulevard des Batignolles. J'ai marché. J'ai pris la rue de Turin. La rue de Berne. La rue de Berlin.
J'ai
la
marché.
Rue de Moscou.
J'ai
pris la rue de Moscou. Presque place Clichy. Et là,
monsieur, 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 elle a commencé tout bas. Tout bas. C'est que tu avais fait tomber ça. Tomber ça. Tu avais fait tomber ça.
Oh. Ah ben merci. Il est cassé ? Non, si, il est cassé. Merci mademoiselle. Ouais, bonne soirée.
Je vais au cinéma. Je vois.
Production Au fil du temps vous présente le radio-roman des deux Louises. Un radio-roman comme dans le bon vieux temps.
Les années, c'est l'heure qu'on a fumé et qu'on a bu. Autant de l'école, les yeux dans la colle, à faire la fête tordue. Ne reviendront plus notre tribu, se désorphole. Depuis que certains élus sont devenus des idoles, on ne se parle plus. Mais pourtant, ce qu'on est mort de rire souvent en faisant nos folies d'avant. Qu'on s'est connu quand on n'était pas connu, quand on chantait dans les rues.
Allô, c'est moi. Ben voyons donc, qu'est-ce que tu fais là? Du Tahiti avec des lunettes de ski?
Non, j'étais en train de flatter des dauphins.
Flatter des dauphins. Oh ben là, je comprends rien de ce que tu me dis.
Regarde, ça là, c'est pas des lunettes de ski, c'est des lunettes de réalité virtuelle.
De que quoi?
De réalité virtuelle. Regarde, j'ai choisi une application dans mon téléphone, se baigner avec les dauphins. Oh, moi, j'ai toujours voulu faire ça, puis j'ai jamais eu la chance de le faire. Puis là, ben je mets mes lunettes, puis magie, je me baigne avec les dauphins.
Wow! Hey, toute une invention, ça!
Oui, puis j'adore ça. Tu sais que je peux plus faire ce que mon corps veut plus, là. Ce que mon corps veut plus faire, là, puis je peux plus suivre, là, ben je le fais en réalité virtuelle.
Comme faire du ski.
Ben oui, comme faire du ski.
Ou sauter en parachute.
Ben, pourquoi sauter en parachute? T'as jamais sauté en parachute, toi?
Non, mais ça fait partie de ce que j'ai jamais osé faire, mais que j'aurais bien aimé faire. Ben, ou partir en moto sur les grandes routes des États-Unis.
Ou faire du bungee. Écoute, il n'y en a pas de limite avec cette technologie-là. Tu peux aussi visiter des villes comme Paris, New York.
Oh, visiter les pyramides d'Égypte.
Oui, oui, visiter les pyramides d'Égypte, ou le Grand Canyon, ou les jardins de Versailles?
Hey, je pourrais continuer à voyager en réalité virtuelle. Hey, c'est extraordinaire, ça.
Oui, mais ce qui est le plus extraordinaire, là, c'est que la résidente, elle a acheté 6 lunettes de réalité virtuelle, puis on peut les emprunter. Bien, comme quand tu empruntes un livre à la bibliothèque. Puis en chaque emprunt, là, c'est certain qu'il désinfecte les lunettes.
Oui, mais hey, comment faire pour les utiliser?
Inquiète-toi pas. Isabelle, là, l'animation, elle va tout t'expliquer. Puis en passant, là, c'est pas mal facile. Puis belle fun!
Ben, hey, penses-tu qu'il y a des applications pompiers en réalité virtuelle?
Coudon, les pompiers, ça commence à devenir une obsession.
C'est juste pour rire. Je voulais voir ta réaction.
Tu changes pas, toi. Ben, reste de même. Tu réussis toujours à me faire rire.
Ben, tant mieux. Hein. Mais hey, là, tu vois, je regarde mon ordinateur, là. Ben, il me semble qu'il est bien plate, là, tu sais, comparativement à tes lunettes.
Hey, là, tu exagères un peu, là, hein? Pas plus tard que la semaine passée, là, moi, j'ai visité le Louvre. Puis toi, t'as écouté un concert de l'OSM. Hey, c'est pas rien, ça?
Ah, t'as bien raison. Mais écoute, je suis tellement emballée, moi, avec ton nouveau gadget que j'oublie tout le reste.
Ben, justement, tu viens de le dire, c'est un gadget. On peut pas porter ces lunettes-là des heures de temps. Il faut voir ça comme une nouvelle forme d'activité. Ben, l'ordinateur, ça demeure encore la plus grande plateforme pour se divertir.
Ah, oui, oui, ça, c'est certain, hein. C'est pas les divertissements qui manquent avec nos ordis. Mais quand même, tu sais, voir les pyramides d'Égypte en réalité virtuelle, j'aimerais vraiment ça, moi.
Oui, oui, je comprends, là. Mais tu sais, moi, j'ai vu un site où tu peux le visiter avec ton ordinateur. Bon, c'est pas de la réalité virtuelle, mais c'est quand même comme si tu y étais. Hey, je vais t'envoyer la référence.
Ah, bien ça, c'est bien certain que je vais aller voir ça. Puis, hey, je vais te donner des nouvelles. Hey, mais j'y pense, là. On n'a pas besoin de la technologie tout le temps pour se divertir quand même, hein? Par exemple, tiens, la lecture. Hey, je suis embarquée dans un roman fantastique et il faut que je te conte l'histoire. Imagine.
Non, ça va. Si c'est comme les résumés d'émissions de télévision où ça te prend 2 heures de me résumer une émission de 30 minutes, ben, tu vas être encore là à l'heure du souper.
J'exagère pas mal, mais c'est vrai que je m'étire souvent. Hey, c'est mon côté passionnérant. Mais ce que je voulais dire, en fait, c'est qu'on n'a pas besoin de la technologie pour lire, voilà.
Ben là, tu vas être pas mal surprise parce que là, moi, là, ben, je viens de m'acheter une liseuse électronique.
Oh ben là, c'est certain que moi, j'embarquerai pas là-dedans. Hey, moi, ce que j'aime, c'est toucher le papier, ouvrir un livre, la sensation. En tout cas, je sais déjà que j'aimerais pas ça.
Mais oui, on donc. T'as jamais essayé. Tu peux pas le savoir.
Je le sais parce que si je lis trop longtemps sur mon ordinateur, là, ben, ça me donne mal à la tête. Puis moi, quand je lis un livre, j'aime ça m'asseoir dans mon fauteuil préféré puis relaxer.
Ben, je fais exactement la même chose, mais avec ma liseuse. Puis tu sais, là, ton mal de tête quand tu lis sur un ordinateur ou une tablette, ben c'est un peu normal. Hein? T'as pas la même qualité de lecture qu'avec un livre. Tandis qu'avec la liseuse, ben c'est la même chose que si tu lisais un livre. Tes yeux fatiguent pas.
Bon, de toute façon, ça m'intéresse pas. Moi, quand je veux un livre, je vais à la bibliothèque puis je l'emprunte.
Ben c'est la même chose avec une liseuse, sauf que tu peux faire ça avec ton ordinateur. T'es pas obligé de sortir.
Ça me tente même pas d'essayer.
Hé, hey, tête de mule. Regarde, là. Je vais quand même te montrer la mienne. Bon, regarde. Hé, hey, regarde! Puis laisse-moi t'expliquer, au moins.
OK, je t'écoute.
Bon, pour commencer, là, tu peux mettre le texte de la grosseur que tu veux.
Mais attendons, là. T'as bien dit de la grosseur que je veux?
Exactement. Ça commence à t'intéresser?
Ah, ben c'est un peu normal, hein? Écoute, il y a des livres qui sont écrits pas mal petits, hein? Puis Même avec mes lunettes, là.
Ben, c'est justement la principale raison pour laquelle je me suis acheté une liseuse. C'est un des gros avantages pour moi. Puis c'est pas le seul. Il y en a un autre. Hey, je te dis, là, tu vas capoter.
Lequel?
Un dictionnaire, ma chère. Là, tu tombes sur un mot dont tu n'es pas sûr de la définition. Tu cliques dessus, puis tu as la définition. Hey, c'est pas beau, ça?
Ouais.
Puis en plus, là, tu sais comme on aime ça aller lire dans le parc quand il fait beau? Ben, pas de gros livres à transporter. C'est léger comme une plume.
Ah, mais là, hey, sais-tu que tu commences à me tenter? Mais tant qu'à y être, pourquoi pas un petit robot pour nous divertir, tiens?
Tu ris, hein? Mais imagine-toi donc, dans certaines résidences, ils ont déjà des robots pour divertir. Ben, que ce soit pour danser, chanter, faire du yoga.
Oh non, non, non. Là, arrête-moi ça. Moi, je viens à peine de digérer tes lunettes, ta liseuse.
Écoute, il faut que je te raconte tout ce que le robot peut faire. Bon, imagine-toi donc.
Oh non, merci. De toute façon, je vois l'heure passer. Je dois retourner chez nous. Bye.
Bye bye. À la prochaine.
Hey, bonjour les Louises!
Bonjour!
Hey, vous nous amenez sur le terrain des loisirs et j'ai envie de vous dire, s'il y avait une invention, un robot dans lequel vous pourriez retourner voir les Louises quand vous aviez 20 ans, est-ce que ça vous intéresserait?
Ça fait longtemps, ça!
Et honnêtement, je le sais pas, Chantal. Voyez-vous, en tout cas, moi, j'aime beaucoup ma vie actuelle et je regarde ce qui se passe et tout ça. Est-ce que je retournerai à 20 ans? C'est une excellente question, mais sur le coup, je suis pas portée à vous dire oui. Parce qu'à 20 ans, j'avais certains problèmes que je n'ai plus aujourd'hui, vous comprenez? Alors, c'est pas évident c'est peut-être pas nécessairement quelque chose... à souhaiter ou à vivre. Je suis pas certaine de mon côté. Louise, toi?
Ben moi, je dirais que je suis beaucoup plus sereine à 80 ans que je l'étais à 20 ans.
Alors, qu'est-ce que vous leur diriez à ces jeunes Louises de 20 ans-là?
Oh mon Dieu, moi, j'aimerais donner à ces jeunes Louises de 20 ans toute l'expérience que j'ai acquise. Seigneur, beaucoup plus de sagesse, qu'elle soit beaucoup moins anxieuse et angoissée face à l'avenir, de leur faire part que la vie est belle et qu'on passe au travers de tous les problèmes auxquels, des fois, à 20 ans, on pense qu'on passera pas au travers.
Ouais.
Mais on passe au travers. Ça serait, je pense, le message moi, que je ferais à ma Louise à moi de 20 ans.
Et l'autre Louise?
Mais moi, je lui dirais que les peines, ça ne dure jamais éternellement. Il y a toujours des plaisirs par la suite. Il y a toujours du bonheur qui vient. Et puis, c'est ça. Faut garder le moral, quoi qu'il arrive. Parce que souvent, quand on a de la peine, on pense que c'est la fin du monde quand on a 20 ans.
Alors, ça nous prendrait une lunette de réalité virtuelle pour voir la vie avec nos yeux de personnes plus âgées pour nous aider à relativiser. Ça serait bien, ça, aider à relativiser.
Oui, c'est un bon résumé, Chantal. Effectivement, voir que la vie nous accorde toujours des belles choses. La fille de 20 ans le voit aujourd'hui à 70 ans que j'ai eu tout le temps des... La vie, c'est des cadeaux, hein?
Ouais.
C'est ça que je dirais à la jeune fille de 20 ans. Tout ce qui t'arrive, c'est des belles boîtes. Des fois, il y a des boîtes qui sont vides. Mais souvent, les boîtes sont pleines. Et là, c'est le bonheur. C'est de temps à autre, une boîte vide, mais il y a une boîte pleine en arrière.
Ah, quelle belle image, les Louises. Et je vous offre une chanson de circonstance entre la jeunesse et la sagesse de Kate et Anna McGarrigle.
Ah, magnifique. Merci, Chantal.
À bientôt.
Merci.
À bientôt.
Au revoir.
Les plaines, les arbres à l'horizon.
Entre la jeunesse et la sagesse des sœurs McGarrigle, ben, il y a la vie, il y a le temps. Il y a le temps qui passe et le temps qui compte. J'aimerais vous parler d'une série qui est arrivée sur nos ondes à tout.tv, qui s'appelle « Le temps qui compte ». Si vous écoutez peut-être la série « Une autre histoire » à Radio-Canada qui suit le récit de vie d'Anémone Leduc qui est atteinte d'Alzheimer précoce et qui est incarnée par notre grande actrice Marina Orsini, vous savez un petit peu tous les défis que cette maladie dégénérative entraîne et ça me touche particulièrement que ma tante Claudine en ait atteinte. Et il y a donc eu un dérivé de ce téléroman-là qui s'appelle « Le temps qui compte ». Et c'est un documentaire qui suit des personnes qui ont des maladies dégénératives de différentes générations. On y entend, entre autres, Allison, qui est une jeune maman qui a perdu son combat contre le cancer et qui a, je dirais, raconté son récit de sa lutte contre le cancer dans une page Facebook. Et c'est vraiment très, très touchant. J'ai écouté ça hier soir et ça m'a d'autant plus touchée que je préparais cette émission où on parlait de l'aide médicale à mourir. Et on se rend compte que quand ces personnes ont eu leur diagnostic, elles se sont mises à vivre encore plus fort depuis qu'elles savent qu'elles vont mourir bientôt. Alors, je me dis, pendant qu'on est vivant, soyons donc vivants jusqu'au bout. Peu importe ce qui arrive, essayez de trouver du plaisir et de la sagesse et d'essayer d'emprunter à nos Louises futures peut-être une réaction de « que dirait la vieille sage ou le vieux sage en moi aux plus jeunes ». Et si vous êtes vous-même des vieux sages, ben peut-être que vous pouvez conseiller des plus jeunes qui ont besoin d'entendre parler de votre sagesse. Voici une chanson d'Ève Cournoyer, « Tout arrive, comme dans la vie ».
Rien ne peut anéantir quelqu'un autant que de voir ses rêves voler en poussière. Le mauvais sang que je me fais souvent n'éteint pas mon feu qui bouille en dedans. Je persévère. Va ma fille, la vie t'attend. Souviens-toi, protège-toi, laisse-toi pas faire. Va pas croire à l'illusoire, y'a rien de plus vrai que la trajectoire. Conseil de mère. Tout arrive à qui sait attendre. Tout arrive à qui sait attendre. Rien ne peut anéantir quelqu'un autant que de voir ses rêves réduits en poussière. Va pas essayer la fusée qui veut te projeter vers l'inespéré. Garde pied sur terre. Le temps file si vite, faut faire bien. Évite les précipices et les gouffres des mal-aimés. Prends ton temps, allez, comprends comment on une rivière sans se noyer. Tout arrive à qui sait attendre. savoir en même temps.
Tout arrive de Ève Cournoyer. Ève Cournoyer qui malheureusement nous a quittés en 2012. Le docteur L'Espérance nous parlait des enjeux de santé mentale et de la détresse qui parfois sont plus grands que tout. Alors, j'ai déjà eu une amoureuse qui m'a parlé qu'en dedans de nous, on avait un petit noyau dur. Il fallait toujours essayer de le retrouver. Alors, c'est ce que je vous souhaite. Merci à nos invités, Georges L'Espérance et les deux Louises, qui nous ont parlé de la vie et de la mort. Merci à nos collaborateurs Maurice Bolduc en régie, Catherine Bourderon à la recherche et Louis Garon, chef d'antenne. La semaine prochaine, on parle du pardon avec Laurent Debacker, auteur de Ho'oponopono, et Caroline Cloutier, thanatologue, la coopérative funéraire du Grand Montréal. Alors, je vous souhaite de garder ce beau petit noyau dur-là et d'avoir confiance qu'il y aura toujours de la lumière en nous. Merci, chers auditeurs. On vous retrouve la semaine prochaine.